Le PSG dont vous avez entendu parler tout le week-end et hier aussi, plusieurs angles jusque-là, la liesse, les émeutes et aujourd'hui un nouvel angle dans cette séquence à la une d'Académ, le PSG et les Juifs. C'est avec vous Joseph Romano, bonjour.
Bonjour, oui Elsa, c'est extraordinaire, le Paris Saint-Germain, comme vous le savez sans doute, vient de remporter sa deuxième Ligue des Champions consécutive. Alors la Ligue des Champions, pour ceux qui ne suivent pas forcément le football, c'est la compétition qui réunit chaque année les meilleurs clubs européens. C'est le trophée que tous les grands clubs rêvent de gagner. Et depuis 1955, le seul club français qui avait remporté la Ligue des Champions, avant l'année dernière donc, c'était l'Olympique de Marseille en 1993. Et depuis, les Marseillais ne nous ont pas laissé l'oublier, à nous, les Parisiens. Mais ce n'est pas de cette rivalité dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ni même des débordements qui ont eu lieu sur la capitale samedi soir. Je voudrais vous parler d'une archive que j'ai trouvée en parcourant les anciens numéros de la revue mensuelle de l'Arche. Oui, c'est une de mes responsabilités chez Académ, fouiller dans les archives de l'Arche pour trouver un article qui résonne avec l'actualité. Vous le savez sans doute. Et récemment, je suis tombé sur un article qui s'intitule « La double vie du PSG » et qui revient sur l'histoire passionnée, mais aussi conflictuelle, des relations entre les Juifs parisiens et le Paris Saint-Germain. Cet article, publié dans l'Arche en mai 1995, est signé Claude Ascolovic et Stéphane Calvo. Alors quand on pense au PSG, on pense spontanément au Qatar, au Star Mondial, à un club qui est devenu une marque planétaire. Mais le PSG, des origines, c'est d'abord l'histoire d'un homme, Daniel Echter. Daniel Echter, c'est un couturier célèbre du club, c'est un couturier célèbre des années 70, pionnier du prêt-à-porter de luxe. Et c'est aussi le fondateur du club tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc un juif d'origine russo-bulgare qui décide de créer un grand club à Paris et qui va lui donner son identité et notamment son maillot historique, le maillot Echter, symbole incontournable du Paris Saint-Germain. Donc c'est un maillot bleu, marine, qui a la particularité d'avoir une large bande rouge au milieu, verticale, et encadrée par deux liserés blancs. Et le couturier Ashkenaz aurait trouvé l'inspiration en observant la large bande centrale sur le capot d'une Ford Mustang. C'est aussi peut-être une inspiration du maillot de l'Ajax Amsterdam, un autre club qui a son histoire juive. On pourrait penser que ce maillot est un détail, mais c'est un véritable symbole, très souvent repris par les designers du Paris Saint-Germain. Et ça ne manque pas, l'année prochaine, le maillot domicile, c'est-à-dire en fait le maillot principal, de l'équipe de la capitale, est une réinterprétation du maillot Echter. On pourra donc toujours reprocher au club d'appartenir aux Qataris, mais on remarquera que son identité visuelle est largement héritée de la vision d'un couturier juif du sentier. Revenons à nos années 70. Autour de Daniel Echter gravitent plusieurs figures importantes, notamment Charles Talar, le producteur de Mike Brandt, et Francis Borrelli. Alors, Francis Borrelli n'est pas juif, mais il va devenir l'incarnation de toute une époque du PSG, au point que les auteurs de notre article écrivent « Le PSG est juif, c'est l'effet Borrelli ». Évidemment, cela ne veut pas dire que le PSG était un club juif. Ça veut dire qu'une partie de son identité, de son public, de son environnement social était marquée par les juifs tunisiens de Paris. L'article raconte par exemple comment la tribune C du Parc des Princes, le parc du Paris Saint-Germain, le stade du Paris Saint-Germain, et je dirais même la C rouge, était devenue le rendez-vous de toute une génération de supporters qu'on appelait alors les Thunes. Des familles venues de Tunisie, passionnées de football, qui avaient adopté le PSG dès sa création. Apparemment, on y mangeait des casse-croûtes tunisiens, on y buvait de la bourra, et un supporter raconte même qu'il préparait des sandwichs spéciaux pour le président Francis Borrelli. Mais ce qui rend l'article particulièrement intéressant, c'est qu'il raconte aussi le début d'un malaise. Parce qu'au même moment, le Parc des Princes voit émerger le Cop of Boulogne. Alors, petite parenthèse pour ceux qui ne vont jamais au stade, dans un stade de football, derrière chacun des buts se trouvent les virages. Ce sont de grandes tribunes populaires où se retrouvent les supporters les plus radicaux. Et quand moi j'étais petit et que j'allais au Parc des Princes, j'étais fasciné de voir, de part et d'autre du stade, les deux virages se répondre des chants en hurlant. J'avoue que plus tard, j'ai trouvé cette ferveur des cœurs à l'unisson plutôt dans les synagogues. Donc d'un côté, le virage Boulogne, et de l'autre côté, le virage Auteuil. Entre les deux, c'était beaucoup plus calme. Et ce que j'ignorais, c'était l'identité de ces deux tribunes. En effet, depuis les années 90, le parc s'est en fait retrouvé divisé entre deux cultures de supporters. D'un côté, Boulogne, où l'influence de l'extrême droite est documentée dès les années 80, hein, et l'article raconte vraiment avec précision ce malaise grandissant et l'antisémitisme qu'il va diffuser. Et de l'autre côté, Auteuil, qui attire progressivement un public plus jeune et plus issu de l'immigration. En 1995, lorsque ce texte est publié, le malaise d'une partie des supporters juifs du PSG est lié à cette présence de l'extrême droite dans les tribunes. Et 30 ans plus tard, ce malaise n'a pas disparu, mais il a pris d'autres formes. Car entre-temps, le PSG a connu plusieurs ruptures majeures. L'une d'elles remonte à novembre 2006, lors d'un match PSG Hapoël Tel Aviv, et il se trouve que j'y étais avec mes deux frères et mon père. Surprise, Tel Aviv gagne le match, Et après la rencontre, un supporter juif du PSG est pris à partie par plusieurs supporters parisiens. Un policier intervient pour le juif, pour le protéger, et abat l'un des agresseurs. Le choc est immense. Quelques années plus tard, la direction lance le plan Le Prou, fin des abonnements de groupe, dissolution des associations, et les ultras sont pratiquement bannis du parc. Certains diront qu'on a sauvé le stade, d'autres qu'on lui a enlevé son âme. Mais le vrai bouleversement pour le club, c'est qu'en 2011, le PSG est racheté par Qatar Sports Investments. Donc le centre de gravité du club se déplace. Le PSG n'est plus seulement un club parisien ou français. Il devient une marque mondiale, un instrument de rayonnement international capable d'attirer les plus grandes stars de la planète. Sportivement, les résultats sont extraordinaires, surtout depuis que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions l'année dernière et cette année. Mais pour beaucoup de supporters historiques, cette transformation s'accompagne aussi du sentiment que quelque chose de l'ancien PSG disparaît progressivement. Aujourd'hui, les inquiétudes exprimées par certains supporters juifs ne sont plus les mêmes que celles décrites dans cet article de 1995. Elles peuvent s'exprimer autour de certains tifos, donc ces espèces de gigantesques banderoles dessinées dans les tribunes, de certaines prises de position liées au conflit israélo-palestinien, de l'implication du Qatar, ou plus largement autour de la place que peut encore occuper l'histoire juive du club dans le récit du PSG contemporain. Et moi, je me confesse, samedi, j'ai fait la fête.